Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Salut les champions, ici Barthélémy Fent et bienvenue sur Extraterrien. Extraterrien, c'est le podcast des amoureux du sport qui veulent connaître les secrets des champions. L'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, sportive ou personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, j'accueille une très grande championne en la présence d'Aurélie Muller. Aurélie est une des meilleures nageuses en eau libre de l'histoire. Elle est connue pour avoir été l'une des protégées de l'entraîneur célèbre Philippe Lucas, mais aussi pour avoir été injustement destituée de sa médaille d'argent à Rio en 2016 dans un scénario rocambolesque. Je n'ai pas forcément voulu revenir sur ce sujet sensible que les médias lui rabâchent très souvent. Déjà car elle en parle très bien dans un magnifique reportage Intérieur Sport que je vous recommande chaudement, mais également car j'y ai vu une opportunité pour moi de vous montrer une autre facette de sa personnalité. Nous avons parlé de combativité, de résilience, mais aussi de la capacité de certains champions à redevenir des débutants. C'est un des épisodes dont je suis le plus fier, avec une championne incroyable et accessible, donc j'espère que vous allez apprécier. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vous recommande l'épisode 30 avec Alexis Anquincan, paratriathlète, qui est le grand favori pour cet été à Tokyo et dont l'histoire est tout simplement incroyable. D'autre part, si vous ne le savez pas encore, j'ai beaucoup d'ambition pour le podcast et je souhaite aller chercher des sportifs toujours de plus en plus inspirants. L'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est aussi de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast via les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur iTunes ou Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs à venir témoigner. Si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram. C'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». J'y partage mes bons plans santé, matériel et préparation mentale. Allez, c'est parti pour un épisode formidable avec Aurélie Muller.
Salut Aurélie.
Salut Barthélémy.
Bah écoute, je suis hyper content de te recevoir sur le podcast. Comme je te disais, T'es une des personnes qui m'a le plus inspiré quand j'ai débuté la natation et je partais très très loin. Un petit traumatisme dans l'enfance faisait que j'étais pas très à l'aise dans l'eau. J'ai beaucoup suivi ton parcours, ton histoire, je la connais très bien. Et je suis très ému là à l'idée de te. Enfin, j'étais très ému hier soir. Là, je cache un peu mes émotions à l'idée de te rencontrer. Comment ça va?
Ça va bien, ça va plutôt bien. J'ai amorcé, on va en parler tout à l'heure, mais j'ai amorcé un nouveau challenge, donc je m'y sens bien et voilà, ça va bien.
Ok. Et là, on est à Nice. Tu te plais un peu dans cette nouvelle ville. Effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais ça va, c'est un contexte qui te plaît bien.
Ouais, j'ai pas à me plaindre. Je suis dans le sud, il fait beau, je nage en bassin extérieur. On a des super conditions, donc ça se passe bien, ouais.
Ok. Parce que toi, tu es originaire de l'Est, c'est ça?
Ouais, de Sarreguemines.
Ok, ouais.
Donc, c'est vraiment le Nord-Est et ça change. Ça change.
Mais je te le disais à l'instant, il y a la petite tradition sur le podcast, c'est un peu de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Pas forcément le premier, mais est-ce que tu as un souvenir, un marquant qui est...
Mon premier souvenir de sport, en fait, c'est jouer avec mes copains. Okay. En primaire, j'attendais la récréation pour pouvoir jouer au foot, au loup. J'aimais beaucoup être dehors et me défouler. Donc, ça serait ça. Ce serait jouer avec mes copains et partager soit dans le quartier, soit à la récré à l'école.
Ok. Pas de sport en particulier, mais juste le jeu, quoi.
Non, pas de sport en particulier. Après, c'est vrai que mes parents m'ont raconté. Évidemment, j'ai été bébé nageur très tôt, mais je m'en souviens pas. Mais, ce que je me souviens, c'est des parties de foot, c'est dans le quartier avec les copains et voilà, le partage.
Ok. C'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient très très souvent. La camaraderie, le copinage au début. C'est quelque chose que des fois qui se perd un petit peu avec les années. Toi aujourd'hui c'est quelque chose qui est important pour ton équilibre
de... Ouais, moi c'est hyper important. J'ai grandi, j'ai évolué avec des copains, avec un groupe d'entraînement. Je suis passée d'abord par les sections sportives. Donc au départ, je suivais mes copains et mes copines parce qu'ils faisaient de la natation, même si j'aimais ça, mais je les suivais aussi pour ça. Pour rester avec eux, pour avoir ce partage. Pour moi c'est vraiment important et j'ai toujours essayé de garder ça au fur et à mesure de ma carrière, ouais.
Ok, mais c'est vrai qu'on le voit sur quelques vidéos de toi, des fois, t'essayes toujours d'aller au contact un peu de la blague, du réconfort et des autres, donc, et ça te rend vachement humaine, je trouve. Hein, tu vois, ça donne un petit peu plus. Et je rebondis sur les bébés nageurs. Je suis papa et j'attends mon deuxième là dans quelques semaines.
Bravo, félicitations.
Merci. Moi, j'ai fait que le plus facile pour l'instant. Dans les sportifs et les sportifs que tu vois autour de toi, c'est quelque chose de fréquent? Parce que moi je suis vachement tenté par ça là, je me dis que ça peut être génial.
Écoute, on en a jamais vraiment parlé, mais moi c'est vrai que mes parents ont décidé de me mettre au bébé nageur parce que voilà, pour essayer, et puis ils ont vu que bébé j'étais super à l'aise dans l'eau et que limite je savais nager avant de marcher, donc en fait j'ai toujours été dans l'eau toute ma vie.
Okay.
Et puis après évidemment, ça s'est fait très facilement, j'ai intégré le club, puis je faisais 2-3 entraînements par semaine, et puis après c'était beaucoup plus, et puis après c'était en primaire, c'était tous les jours.
Tous les jours en primaire. Ah ouais.
Ouais, tous les jours en primaire. Ouais, je me rappelle. Enfin, mes parents ils faisaient les allers-retours entre. Au départ, j'étais à Sarralbe, mon village où mes parents habitent, et puis après, au fur et à mesure, on voyait que j'étais super à l'aise. Il me fallait vraiment un club qui était formateur. Donc je suis partie à Sarreguemines et là c'était tous les jours après l'école, j'allais faire mon entraînement, donc les allers-retours. Mes parents se sont bien démenés pour moi et ça a duré longtemps parce que après j'ai intégré le collège.
Ouais.
Et là c'était un peu difficile pour moi parce que je quittais en fait les copains et les copines que j'avais au primaire, ils allaient pas dans le même collège parce que moi j'allais dans un collège spécial sport études.
Okay. Ouais,
avec des horaires aménagés et tout, mais c'était une période que j'adorais, des voilà, c'est vraiment un rythme de vie spécial parce qu'on n'a pas les, on n'a pas, ben voilà, un rythme de vie comme tous les autres filles et garçons. Donc ouais, c'était chouette, c'était ouais. chouette.
Et tu disais que la transition avait été un petit peu dure au début parce que tu perdais tes copains. C'est qu'est-ce qui te l'a dit? C'était tes parents qui le voyaient, qui l'ont vu ou c'était toi?
Ben non, parce que du coup j'en profitais le week-end à fond pour les voir, pour les voir. Et la semaine, ben c'est vrai, quand ils nous proposaient des choses ou après l'école, ben ils se voyaient. Ben moi non, je pouvais pas. Enfin, j'étais à Sarreguemines, j'étais à l'entraînement, je rentrais à 19h et le matin ça recommençait quoi. Donc je les voyais juste le matin après au lycée, je les voyais juste le matin dans le bus quand je prenais l'école, quand j'allais à l'école quoi. Donc mais c'était chouette, c'était chouette.
Et petite au collège là quand tu commences à nager tous les jours, tu t'as déjà des rêves plein les yeux
Bah pas trop. Pas trop, en fait, je fais ça parce que j'adore ça, j'aime bien, j'aime plus ça qu'aller à l'école. Donc, en fait, je m'épanouis beaucoup plus dans le sport, en fait, tout simplement. Pour moi, le sport m'a construit. Donc ouais, j'aimais beaucoup. J'avais pas de, enfin, je pensais pas à être une championne. Je pensais juste à me faire plaisir, à aller nager avec mes copains et à me dépenser en fait. J'étais hyper active, j'adorais être dehors, donc et puis l'eau c'était un peu mon élément, donc voilà, ouais.
Même pas quelques idoles et un ou deux sports posters dans ta chambre, non?
Non, même pas. Non, même pas.
Ok, bon, bah tu vois, ça doit être peut-être mon côté plus cérébral. Moi, j'avais des images de tous mes champions dans ma chambre très très jeune. Et, bah, à l'époque, c'était du tennis, donc je pense que j'avais tous les Français et les numéros mondiaux, quoi. Mais ok, super marrant. Et du coup, c'est à quel moment peut-être que tu réalises que ça va devenir ta carrière et que ça va devenir quelque chose de sérieux? Il y a un déclic, vraiment, ou c'est plutôt tu te laisses porter?
C'est fin collège, début lycée. Ouais. En fait, à la fin du collège, on intègre le bicotidien, donc nager deux fois par jour. Donc là aussi, c'était un gros changement parce qu'on allait, on allait à l'école, on s'entraînait entre midi. On n'avait pas trop de temps, on avait 45 minutes, hein, mais on voilà, on s'entraînait quand même. On allait à la cantine manger et puis on retournait à l'école et on retournait à l'entraînement le soir.
Ouais.
Donc ça faisait des grosses journées. D'ailleurs, je sais pas comment aujourd'hui j'ai pu faire parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un rythme différent. Et du coup fin collège, j'ai quelques résultats mais je suis pas la meilleure, j'ai pas un gros potentiel. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Et au lycée, en fait, je réussis à me qualifier au championnat d'Europe junior.
Ouais.
Où là, je me dis bon bah super, j'intègre ma première équipe de France, c'est cool et tout. Et en fait au championnat d'Europe ça se passe super bien et en fait je suis championne d'Europe du 400 mètres nage libre.
Ouais.
Et là en fait ça a été le déclic parce que voilà, je prenais conscience de que ça pouvait le faire et que je pouvais faire de belles choses. Donc et puis ça m'a motivée encore plus, donc il se passe ça et après je crois 2 mois après il y avait les championnats du monde junior
sur 1500, c'est ça,
voilà. Ouais. Et là pareil, on part à Rio, enfin moi je prenais l'avion mais pas pour aller aussi loin, enfin
t'as 16 ans quoi, en plus
j'ai 16 ans. Ouais. J'ai 16 ans, donc j'arrive aux championnats du monde junior et là pareil sur un peu pas un coup de tête mais je m'y attends pas et je suis championne du monde junior sur 1500. Donc là, super, et c'est là où vraiment où ma carrière s'est lancée, quoi.
Ouais, ok. Et qu'est-ce qui change à ce moment-là? C'est les sponsors, c'est des coachs, c'est ce que disent les gens?
Non, pas vraiment. C'est juste la vision en fait que t'as de toi, ouais. De dire waouh, je suis capable de faire ça, c'est possible. Est-ce que je peux aller plus loin? De quoi je suis capable? Donc en fait, c'est juste des questionnements face à toi-même. C'est pas les sponsors, non. J'ai 16 ans. La natation, c'est pas un sport très médiatique. Enfin, voilà, il y a des gros sponsors. Ouais. Donc voilà, non, c'est juste, on va beaucoup plus s'entraîner. On va voir l'année prochaine si je peux me qualifier en équipe de France A. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits paliers qui se posent, quoi.
Ouais, c'est plus des paliers que tu te fixes un petit peu régulièrement. Est-ce que t'avais un carnet d'entraînement à l'époque ou
j'ai toujours.
Tu vois toujours. Ouais.
Ouais, je crois que j'ai commencé à écrire mes entraînements. Ça fait une dizaine d'années quand ça commence à être sérieux, ouais. J'écris mes entraînements. J'écris tous mes entraînements dans un cahier, parce que pour moi, enfin, J'aime bien savoir, voir par rapport à l'année passée ou voir à d'autres années ou ce que je faisais. Par exemple, aujourd'hui, c'est super intéressant parce que, évidemment, j'ai oublié ce que je faisais, mais du coup, des fois, je m'y replonge, je regarde, ah ouais, je faisais ça, et voilà, c'est sympa.
Ok. Attends, juste par rapport au micro, si tu le dis comme ça, je t'en
envoie. Ok, pardon.
Il y a pas de souci. Mais je te vois me le montrer.
Ouais, pardon.
T'inquiète. Et tu te fixais des objectifs en début d'année ?
Non, pas forcément. Okay. C'était participer à la compétition majeure, mais c'était pas une place, un temps. Évidemment, oui, on veut améliorer nos temps, mais ouais, c'était surtout me qualifier à la compétition majeure de l'année et voir ce que je peux faire là-bas, quoi.
Ok, voilà. D'accord. Et moi, il y avait une question que j'ai. Moi, j'ai. Il y a peut-être la réponse quelque part dans un média ou dans une interview, mais je l'ai pas trouvé. C'est que tu gagnes sur 400 et sur 1500.
Ouais.
Et tu t'es tourné quand même assez rapidement vers le libre, il me semble. Ouais. Comment est-ce que tu as fait ce switch et d'où ça vient en fait finalement? J'ai pu comprendre que c'était un entraîneur qui t'avait encouragé, mais j'ai pas compris toi. Quelles étaient les émotions et un peu la réflexion qu'il y avait derrière ça.
En fait, je gagne le 400, je gagne le 1500. Et moi, évidemment, je suis une nageuse de long. 1500, c'est quand même pas mal.
Ouais.
Et donc, j'ai plutôt des aptitudes à nager du long. Et donc, je gagne le 1500. C'était 2006, pardon. Oui.
On se vieillit.
2006. Et en fait, je pense un peu en coin de ma tête que 2008, il y a les Jeux Olympiques.
Ouais.
Et que j'ai encore 2 ans devant moi et voilà, j'y pense, mais de loin. Mais je réfléchis, je me dis, en fait, le 1500 à l'époque, c'était pas une discipline olympique pour les femmes.
Ouais.
Il y avait que le 800 mètres. Et le 800, j'aimais pas trop. C'était long, mais j'aimais pas trop. J'arrivais pas à le gérer. J'aimais pas. Et puis surtout sur cette distance, à l'époque-là, il y avait évidemment d'autres filles, Laure Manodou, une fille qui était dans mon club qui s'appelait Sophie Hubert et pareil, qui envoyait, quoi. Donc,
très grosse génération.
Ouais. Donc, il y avait une très grosse génération et je me suis dit, ça sera hyper compliqué pour moi d'essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques. Et puis, l'été 2007, on me propose de faire une course d'eau libre dans un lac à Gérardmer.
Ok.
Parce que monter sur 5 km, ça permet de travailler le 1500, ça permet de travailler le 800, etc. Donc j'y vais, mais vraiment en totale découverte et en fait, j'adore ça. Enfin, je plonge dans l'eau, l'eau était super bonne, il faisait beau, enfin, les conditions étaient là.
Ouais.
Et puis je fais la course et puis je gagne. Mais vraiment sans y avoir réfléchi, enfin. Et puis je me rends compte que j'adore ça, c'est un milieu naturel, enfin c'est super cool, donc et puis l'ambiance est super super sympa.
Ouais.
Et puis en fait je me dis je vais faire quelques courses d'eau libre dans la saison pour travailler mon 1500 et mon 800. Et puis en fait tout allait très vite, j'ai fait une Coupe de France, 2 Coupes de France et puis je les gagne très facilement. Et en fait, en 2008, c'est l'année où la première fois l'eau libre rentre dans le programme olympique.
Ok, mais en 2007, tu le sais pas encore, je crois.
Je sais pas encore. Non, je le sais pas. Enfin, je le sais à la fin de la saison parce que j'arrive au championnat de France, pareil, je gagne ou je sais plus, je fais deuxième. En tout cas, je suis hyper bien placée et je me qualifie au championnat du monde. Mmh. Et au championnat du monde, en fait, c'est comme maintenant, c'est tu dois arriver dans le top 10 pour être qualifié au jeu. Donc là, je me dis, waouh, en fait, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Et je me dis, on va y aller, on va voir ce qui se passe. Et puis, j'arrive 9e, en fait. J'arrive 9e. Et donc, à 18 ans, je suis qualifiée aux Jeux Olympiques sur 10 km. Alors que j'en ai peut-être fait 2 ou 3 dans l'année, quoi.
Ouais.
Donc, incroyable, quoi. Incroyable. Et en fait, ouais, le switch s'est fait comme ça, très facilement et très simplement. Pour objectif de travailler le 1500 et le 800. Puis en fait, je me retrouve aux Jeux Olympiques sur 10 km, quoi. Voilà.
Ouais. C'est ça qu'on arrive, c'est aussi simple que ça. Si vous, les amis, moi, je voulais avoir des secrets,
vraiment. Après, évidemment, j'ai dû apprendre la discipline parce que c'est tout à fait différent.
Qu'est-ce que t'as appris de nouveau, d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as appris de neuf?
À gérer en fait mon effort. à gérer l'effort, à gérer les facteurs extérieurs, parce qu'on n'est pas dans une piscine, voilà, et il y a la température de l'eau, il y a les courants, il y a les adversaires, voilà, il y a tout ça, et gérer vraiment son effort, ouais.
Ok, ok. Et t'as mentionné aussi les conditions un peu climatiques et l'ambiance.
Ouais.
C'est quoi les conditions idéales et l'ambiance idéale, selon toi?
Bah, l'ambiance idéale, c'est, moi j'aime bien les deux extrêmes, que ce soit grand soleil, bonne température, l'eau super claire, et puis du monde autour, quoi. Donc ça c'est cool. Mais j'aime bien aussi la pluie,
quand ça vente,
quand c'est vraiment horrible, quand il y a du vent et qu'il y a des vagues et que là on se rend compte vraiment de la dimension du sport, ouais. Quoi. Donc ouais, j'aime bien les deux extrêmes, ouais.
Ouais, mais moi je me souviens de, je crois la première fois que je suis allé nager en mer, il y avait tellement de vent, je sortais mon bras de l'eau et mon bras il se laissait emporter par des brasses de vent, et là je me suis dit ah ouais, en fait c'est
costaud, quoi. Moi j'aime bien les challenges, j'aime bien la difficulté, donc forcément quand on a des conditions un peu comme ça, enfin moi ça me booste, en fait, ouais. Donc ouais, j'aime bien. Okay. Mais j'aime bien aussi quand l'eau est bonne et que et que l'eau est claire et qu'il fait beau et que les gens sont là et voilà.
Ouais. Et c'est marrant de voir un petit peu les opposés. Et c'est un petit peu plus tard, je crois, que tu rencontres ton entraîneur Philippe Lucas, qui va, je sais pas si c'est un jump trop grand dans le temps ou qu'est-ce qui se passe un peu.
Attends,
après ces JO,
je me rappelle.
Si tu veux, on reprend. Est-ce que tu te souviens après ce qui se passe après ces JO là, cette première
Olympiade?
Oui, donc
évidemment, j'arrive les yeux grands ouverts. Je sais pas trop ce qui m'arrive. J'ai 18 ans puis voilà. Bon, ça se passe pas forcément bien parce qu'à l'époque, en fait, moi, j'apprenais vraiment la discipline et je me ravitaillais pas. Je pensais qu'on allait faire 10 kilomètres comme sans me ravitailler. Donc
la perte de temps, hein,
voilà.
Ravito.
Voilà. Donc je pensais que moi j'allais arriver et que j'allais être capable de pas me ravitailler. Mais non, ça c'est impossible. Surtout que évidemment, quand une discipline olympique arrive au programme olympique, ça fait un boom au niveau du niveau.
Ouais,
ça
ouais.
Vraiment, ça a boosté la discipline. Donc les gens, aujourd'hui le niveau en eau libre est incroyable, et donc voilà, pendant la course, en fait, je me ravitaille pas et je prends un énorme bambou, quoi. Donc voilà, je finis 21e, 22e sur
fringale,
sur 25. Donc évidemment pas un très beau souvenir de ma course, mais voilà, la frustration et l'envie de recommencer et de travailler pour que ça se passe bien. Donc 2009, 2010, 2011, je continue, voilà, dans l'optique de ça. 2009, c'était un peu compliqué parce que pareil, j'avais pas encore compris qu'il fallait que je me ravitaille. Donc je persévérais là-dedans, mais bon voilà, 2009 m'a bien, les championnats du monde de 2009 m'ont bien remis en place. Pareil, je fais un 10 km, au 5 km, je suis première et j'arrive 42e.
Ok.
Donc là c'est bon, la leçon a été comprise. Donc voilà, 2010, j'enchaîne, en fait, je suis plus axée vers l'eau libre, parce que voilà, c'est une découverte, j'apprends et j'ai envie de vraiment m'y mettre à fond. Et puis voilà, après 2011 pareil, 2012 malheureusement je rate ma qualif olympique au niveau français.
Parce que attends, du coup, les qualifs, t'as dit que c'était les 10 premières qui arrivaient au championnat du monde.
Ça, c'est au championnat du monde. Mais en fait, avant, il y a une sélection au niveau français.
Il y a une présélection. Ouais.
Voilà, parce qu'on en emmène que deux. Ouais. Et donc, il y a d'abord une sélection française. Et là, en fait, je rate à la première porte. Je fais une hypothermie dans une eau à 16. Là, pareil, j'étais pas du tout préparée. Je savais pas que je devais préparer mon corps au froid, etc. Donc j'abandonne la course parce que je fais une hypothermie. Donc pas de qualif pour moi. Enfin, en tout cas, je peux pas aller sur le au championnat du monde sur 10 km.
Okay.
Je me qualifie sur 5, mais je vais pas sur 10.
Ouais.
Et la seule discipline olympique, c'est 10 km.
C'est 10, ouais.
Donc je rate ma qualif pour Londres. Et puis mais c'est pas grave, enfin voilà, je continue, je suis en apprentissage, je continue. Et puis en fait moi je grandis et puis mes copains et mes copines ils ont pas les mêmes résultats que moi, ils ont pas le même niveau que moi, et puis au fur et à mesure ils arrêtent.
Ouais.
Et donc je me retrouve dans mon club à Sarreguemines un peu à m'entraîner toute seule.
Ah, t'étais toujours là entre-temps. Ouais,
ouais, okay. J'ai toujours été à Sarreguemines. Et ouais, donc au fur et à mesure des années, il y en a un, deux qui partent parce que bah voilà, enfin ils ont un autre projet de vie et ils ont pas les mêmes résultats et du coup voilà, je me retrouve un peu toute seule à m'entraîner. Donc ça a été dur, mais je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'être plus forte aujourd'hui. C'est quand même s'entraîner deux fois par jour, faire 7-8 kilomètres toute seule, c'est pas facile quoi.
Ouais.
Et puis après en 2014 en fait, je décide de partir de Sarreguemines parce que je vois bien qu'en fait ils m'ont donné tout ce qu'ils ont pu me donner en fait,
ouais.
En termes de structure, en termes de formation, etc. Et je vois que il me manque un truc pour pouvoir passer un cap et donc je décide de partir au Canada.
Ok.
Parce que j'ai envie d'évoluer, d'avoir une expérience étrangère. Et je pars chez un entraîneur qui a eu un garçon qui a fait médaille de bronze aux Jeux de Londres.
Ok.
Et je me dis bon voilà, je vais apprendre plein de choses quoi. Donc
comment il s'appelle?
Run Jack.
Ok.
Et donc je pars là-bas en me disant bon bah je vais préparer mon Olympiade là-bas. Et donc ça a été très dur vraiment. Enfin je suis partie du côté sur l'île de Vancouver. À Victoria, donc vraiment tout au bout.
Ah ouais, donc
ça parlait anglais.
Il y a 10 heures de décalage.
Voilà,
fait froid,
ça parlait anglais. Et puis moi, je parlais pas trop anglais.
Ouais.
Et donc ouais, c'était déjà compliqué pour se comprendre. Et puis après, je changeais totalement de méthode. Donc ça aussi, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je regrette pas et heureusement que je l'ai fait en fait. Que je l'ai fait parce que. Ça m'a préparé à Philippe.
Ouais. Pourquoi l'entraînement à la dure et le.
Ben en fait, avant, j'aimais pas beaucoup nager. Je me plaignais. Enfin, c'était dur. Je nageais toute seule, donc c'était compliqué de se motiver, etc. Donc je nageais 6-7 kilomètres. Mais quand ça dépassait 7 kilomètres, je râlais. Et non, par entraînement, je nageais 14 kilomètres par jour.
Ah oui, deux fois par jour.
Ouais. Ouais.
Ah ouais, quand même, attends.
Ouais, quand même.
Tu m'étonnes que tu le coupes en deux.
Mais voilà, et en fait, là, je suis arrivée au Canada et je nageais 8 tous les jours.
Ok.
Deux fois par jour, tous les jours. Tous les jours. Et c'était pas forcément intense, mais c'était vraiment du long, nager. Et moi, j'aime pas nager juste pour nager. Il me faut un challenge, vraiment j'y vais pour me donner quoi. Et donc non, c'était pas simple, mais bref, au bout de 6 mois, je décide de rentrer parce que je vois que, enfin voilà, ça me correspond pas forcément et voilà, je décide de rentrer et ben en fait en France il y a pas énormément d'entraîneurs de demi-fond, de demi-fond et encore moins d'eau libre à l'époque.
Ouais.
Et donc je décide d'aller chez Philippe.
Ok.
Sur un coup de tête, je l'appelle du Canada en plus, il me dit ouais, y a pas de problème. Et je me rappelle, j'avais pas énormément de forfaits et ça a bloqué en pleine conversation, tu vois. Et je me suis dit, oh, mais punaise, j'avais quand même Philippe Lucas, je lui ai raccroché au nez, enfin il va rien comprendre et je pouvais pas le rappeler quoi. Enfin, c'était marrant quoi, mais bon, il était hyper cool et donc je suis rentrée chez moi, j'ai pris quelques jours et puis je suis partie à Narbonne.
Ok.
Voilà, je suis arrivée au mois de février, je crois, ouais. Au mois de février à Narbonne et
tu savais
voilà.
À quoi t'attendre?
En fait,
il se dit beaucoup de choses.
Ouais.
C'est quand même un des entraîneurs français les plus médiatiques, tu vois.
Ouais. J'avais vu comme tout le monde les vidéos. Et puis j'avais montré à mes parents l'intérieur sport de Philippe Lucas et Amaury Levaux.
Ouais.
Qui est mythique pour moi.
Ouais, il est génial.
Et je me rappelle, ma mère, pendant tout le visionnage, elle faisait des gros yeux et tout. Et à la fin, elle me dit, t'es sûre que tu vas aller là-bas? Je dis, bah ouais, non, je vais aller là-bas.
Ouais, je pense que j'ai la même maman que toi, elle m'aurait pas.
Voilà, et puis voilà, l'aventure était lancée. Et en fait, avec Philippe, ça a matché tout de suite. Vraiment, on est deux travailleurs, on travaille à l'instinct et voilà, ça a tout de suite fonctionné. La preuve, en fait, j'arrive en février et au mois de juillet, bah, je suis championne du monde, quoi.
Ouais.
Donc,
ça prend tout de suite.
Évidemment, c'est pas que Philippe, mais c'est le travail que j'ai fait au Canada parce que, ben, voilà, au Canada, en fait, mon corps, il a appris à nager longtemps, à nager vraiment beaucoup. pas à une forte intensité, mais à nager beaucoup et long. Et en fait, avec Philippe, j'ai rajouté l'intensité.
Ok.
Tu vois, donc mon corps, ouais, il savait nager long. Et parce que je pense que si j'aurais fait Sarreguemines, Philippe Lucas, je suis pas sûre que ça aurait fonctionné. Ça aurait vraiment été un gros cap au niveau physique et mental. Je sais pas. Après, on saura jamais. Mais voilà. En fait, je pense que le Canada, ça a été une marche vers Philippe, quoi.
Ouais, t'as peut-être pas pris plus de plaisir que ça, mais peut-être que tu l'as senti au niveau de ton corps, au niveau un peu de tes perfs.
Ah oui, ouais. Maintenant, je sais que ouais, c'est heureusement que j'ai fait ça parce que je pense que ça aurait pas fonctionné de la même manière.
Ok. Bah, super marrant. Et du coup, enfin. Moi, je me doute un peu que, tu vois, Philippe, ça doit sûrement pas être, il doit sûrement pas être exactement comme il est dans les vidéos. Peut-être qu'il en rajoute un peu. On a tous un peu ce côté-là. Mais toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu chez lui ? T'as dit que c'était un gros bosseur, mais est-ce qu'il a, comme t'as dit que t'aimais pas nager pour nager, quel est le challenge un peu toi qui t'a lancé ? Et qu'est-ce qui t'a, comment il a réussi à te prendre au trip ?
Philippe, c'est quelqu'un qui est très humain. Et ouais. Il prend en considération. Ton parcours et mais par contre t'es là pour travailler quoi, donc chaque jour peu importe ce que t'as fait la veille, chaque jour est un nouveau jour et c'est lui vraiment qui m'a appris à vraiment me donner quoi, à vraiment me donner à l'entraînement, à pas réfléchir à ce que j'aurai l'après-midi, à pas réfléchir à ce que j'allais avoir le lendemain ou en fin de semaine, vraiment à dépasser mes limites quoi.
Ouais.
Et à toujours aller au plus profond de toi en fait. Ouais. Et c'est ça ouais, c'est le travail je me rappelle l'année des jeux, j'ai jamais autant travaillé, C'était incroyable, mais c'est un rythme de vie intense et mais intense dans tous les sens, intense dans le travail, intense émotionnellement. Mais après à la fin, t'es tellement content quand t'as le résultat que qu'en fait t'oublies ça, tu l'oublies quoi, la souffrance entre guillemets quoi.
Ouais.
Donc c'est ça qui m'a appris ouais, vraiment le dépassement de soi, le vrai travail en fait, parce qu'avant je travaillais pas vraiment.
Elle le dit. C'est dit, avant je ne travaillais pas vraiment, je faisais ça.
Non, mais avant en fait quand on est jeune, on se rend pas compte en fait du travail que ça demande en fait. On est là, oui, j'avais un peu de talent, j'étais à l'aise dans l'eau, etc. Mais quand tu rajoutes le travail derrière, forcément, ça peut créer de belles choses si t'as toutes les conditions qui sont réunies. Donc voilà, il faut le talent, il faut un peu de talent, ouais, mais il faut surtout du travail.
Ouais. Et y a une question que je voulais te poser par rapport à ça aussi, c'était que ça t'a apporté. Moi, je te connaissais avant que tu le rejoignes, mais ça t'a apporté pas mal de médiatisation aussi. Et puis t'arrives dans un groupe où le niveau il est extraordinaire. Enfin, c'est un des meilleurs groupes d'entraînement au monde.
Ouais.
Comment tu vis toi cette transition là, un peu de médiatisation, et comment est-ce que tu vis un peu aussi le niveau du groupe, parce que tu vois. T'as dit que t'étais toute seule à Sarreguemines et là finalement t'es, je vais pas dire que t'es une nageuse parmi tant d'autres, mais le niveau est très très élevé quoi.
Bah en fait je m'y plais à fond quoi, parce que moi j'aime ça, j'aime me challenger, j'aime faire la course avec mes copains, c'est moi le groupe, ça a vraiment été une respiration en fait, c'était cool quoi, j'étais plus toute seule à regarder mes carreaux, je me confrontais aux autres et c'est là encore on dépassait vraiment nos limites quoi, on se challengeait donc c'était super. Et après la médiatisation, je l'ai pas vraiment senti, parce que moi j'étais encore j'étais quand même pas, enfin j'avais pas des super résultats donc c'était surtout Philippe en fait qui était médiatisé quand on allait en compétition, c'est pas nous qu'on demandait des autographes, c'est Philippe. Donc moi ça me faisait marrer, vraiment moi ça me faisait marrer. Et puis comme tu disais ouais, Philippe il joue un peu avec ça, mais c'est le même, hein. C'est exactement le même, hein. Avec caméra ou sans caméra, évidemment il joue parce que il aime bien et voilà, mais c'est exactement le même.
Ok. Ouais, ouais, mais ça se sent, c'est quelqu'un d'assez authentique et d'assez vrai.
Ouais.
Et t'as parlé de méditation. C'était un lapsus révélateur. Tu médites un peu.
Ouais. Ouais, parce que il faut que j'évolue et je pense que c'est une démarche que j'ai initiée il y a pas longtemps et qui me fait du bien. Alors la méditation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin, juste sentir et ressentir ce qui se passe dans ton corps en fait. te remettre te remettre à l'intérieur de toi, si je peux dire ça comme ça. Et juste accueillir en fait les émotions que tu as et juste en prendre conscience, quoi, parce qu'on a des vies qui tournent à 1000 à l'heure et juste se poser et sentir ok, je sens ça et juste voilà, l'accueillir et voilà.
Ok, et c'est à quel moment que tu t'y es mis?
Eh ben cette année.
Cette année. Okay.
Cette année. Parce que voilà, enfin, j'ai quand même un gros challenge devant moi. Ouais. Et je pense que travailler ses émotions, c'est une des clés. Enfin, ça fait quelques années que j'y pense, mais en fait c'est pas facile d'initier une nouvelle chose et de pouvoir s'y tenir, en tout cas avec rigueur. Ouais. Donc je pense que ça peut être en tout cas un plus dans la performance, ouais.
OK. Bon bah ouais, je te le confirme. Franchement, ouais. Pour avoir beaucoup étudié, tu vois, les athlètes américains, je trouve qu'en termes de préparation mentale, ils ont surtout beaucoup plus d'outils et c'est beaucoup plus connu, quoi. Donc ils le travaillent beaucoup plus, tu vois, ils font de la visualisation, ce genre de choses. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, tu vois, aujourd'hui, tu dis je vais voir un psy ou un coach, c'est genre attends. T'es sportif de haut niveau, t'as besoin de ça vraiment. Et en fait, la réponse c'est oui, tu vois.
Surtout parce que, enfin, moi la visualisation, je faisais beaucoup avec les courses d'eau libre, les différentes stratégies, etc. Donc ça c'était vraiment important. Mais ouais, se poser, juste s'écouter en fait, s'écouter et prendre le temps de s'écouter et voir ce qui se passe un peu dans notre corps, quoi. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal en tout cas.
Ok. T'as dit que tu faisais beaucoup de visualisation. J'avais vu une interview aussi que tu disais qu'avant, je crois que c'est après ton premier titre de championne du monde. Je crois que tu dis mes adversaires, je les connaissais toutes par cœur, leurs points forts et leurs points faibles. C'est quelque chose que tu travailles avant chacune de tes courses.
En eau libre, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Bah parce que enfin c'est ma discipline, donc ouais je.
Qu'est-ce que tu regardes chez elle?
Ben un peu les styles de stratégie qu'elles mettent en place. Par exemple, je sais que une des filles, elle va se cacher dans le peloton et elle va sortir à la fin vers 3 km, 2 km et ils vont se réveiller, ils vont venir au début du peloton où on connaît des gens qui sont un peu agressives, qui respirent plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et ça c'est super important en fait pour le sprint. De savoir si elle respire à droite ou à gauche, savoir se placer, etc. Donc ouais, ça c'est des choses que j'aime faire et qui m'ont permis de passer des caps et d'être devant elle, quoi, tout simplement.
Okay. Attends, et juste explique-moi pourquoi c'est important au sprint de savoir le du côté pour te mettre de l'autre côté et qu'on ne voit pas.
Ouais. Okay. Ouais, quand au sprint vraiment quand t'as fait 9 km et que le dernier kilomètre t'es au coude à coude avec 2, 3, 4 ou plus, il faut jouer tous tes atouts, quoi. Donc puis à la fin on est tous égaux, enfin on a fait 9000 bornes, enfin 9 km, c'est pas rien. Donc à la fin, il faut vraiment chaque détail compte, quoi. Donc si elle respire à droite et tout le temps à droite et que moi je peux me mettre à gauche, du coup elle me verra pas. Pourquoi pas, enfin faut tenter, quoi. Donc ouais. Okay. Ouais.
Et tu les as appris où ces petits trucs,
dans les vidéos, et surtout l'expérience, l'expérience des courses. C'est là où en fait en eau libre t'apprends le plus, parce que tu peux pas recréer une condition de course en fait.
Ouais.
En eau libre tu peux pas la recréer, tu peux pas recréer les conditions, tu peux pas que ce soit l'eau chaude, l'eau froide, les adversaires, tu peux pas recréer. Donc c'est vraiment pendant les coupes du monde et les différentes compètes que tu apprends des autres, tu apprends à te placer, tu apprends. Et puis ouais, tu les connais à force. En eau libre, il y a pas énormément de changements au niveau des athlètes. Il y en a peut-être une ou deux qui percent par année. Donc du coup, tu les connais à force. Tu connais toutes les filles, quoi.
Ok. Ouais. J'imagine au bout d'un moment, tu te revois tout le temps et c'est peut-être un peu. Et tu as mentionné aussi le fait que l'année des JO c'était l'année la plus intense en termes d'entraînement et que t'as pas peur de ça d'ailleurs, d'arriver un peu émoussé ou de te dire finalement t'arrives en pleine forme, quoi, t'es complètement affûté, mais Comment est-ce que tu gères ça? Tu baisses le volume un peu quelques semaines avant?
Bah à l'époque en fait avec Philippe, je me posais pas cette question.
Ouais. Tu lui fais confiance
et... Ouais, je lui faisais confiance évidemment et puis comme avant, j'avais pas trop travaillé. Ouais, l'année 2016 a été vraiment intense parce que c'est là où j'ai le plus nagé, c'est là où je me suis le mieux entraîné, où j'ai vraiment dépassé mes limites mais tous les jours. Et ouais, non, évidemment, oui, on diminue un peu les volumes en arrivant à la compétition. Mais non, les volumes étaient quand même super importants. Et puis comme on
toujours
s'entraîne...
deux fois par jour. Et...
Toujours deux fois par jour. Après, on adapte évidemment à l'arrivée de la compétition. Une semaine après, évidemment, les kilomètres descendent, diminuent, etc. Mais non.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
À l'époque, je me posais pas cette question. Maintenant, je me la pose un peu plus parce que je vieillis.
Tu me dis pas ça parce qu'on a exactement le même âge, on a 22 jours de différence. Okay. Alors, tu vois.
Non, mais aujourd'hui, j'ai une approche un peu plus différente ouais. parce que je vois que mon corps enfin, même si j'ai que 29 ans, j'ai mon corps j'ai réagi différemment. Enfin, j'ai plus 15 ans, j'ai plus 18 ans, mon corps ne récupère pas de la même manière et voilà, maintenant je réfléchis plus à ça, mais je fais confiance à l'entraîneur, voilà. Mais évidemment qu'il y a une adaptation à l'approche des compètes, ouais.
OK. Je voulais hyper rapidement te parler des JO et puis finalement je me suis dit que c'est ça. On a déjà tellement parlé, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir. Enfin, ce qui m'a impressionné c'est ta capacité à rebondir en fait. Et il y a eu des témoignages un peu douloureux dans les médias où des fois tu disais je voyais un truc en brésilien, je tournais la tête ou je voulais plus qu'on me parle du Brésil ou de Rio. Toi, comment ça a été quoi ton avec le recul ton processus mental pour repartir? Est-ce que tu te fermes un peu dans ta coquille et tu vois plus personne ou est-ce que à l'inverse tu retrouves ta famille, tes amis et t'oublies un peu et tu t'y remets quoi?
Bah en fait c'est difficile de répondre à ces questions parce que j'ai pas forcément les réponses. Évidemment ça a été très dur et c'était un passage douloureux. Et c'est un moment de ma carrière qui reste ancré en moi et voilà ça restera une cicatrice. Mais ce qui se passe après les jeux, évidemment je me renferme sur moi-même simplement pour me protéger en fait. Donc je me renferme sur moi-même et oui je retrouve ma famille, mes amis, etc. Donc pendant quelques mois c'est compliqué. Je sais pas trop ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai plus aucune envie. En fait, ouais. J'ai plus aucune envie. Et puis je me dis mais pourquoi quoi. Enfin, c'est pas possible. En fait, j'y crois pas encore. Enfin, j'ai du mal à y croire pendant quelques semaines. Je me dis mais c'est pas possible quoi.
Tu me dis, ouais.
J'ai fait tout ça et à la fin en fait, je suis pas dans les tableaux quoi. Enfin, j'ai pas ma médaille, je suis pas dans les tableaux. Alors la performance, elle est là, mais j'ai pas ma récompense.
Ouais.
Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui comptait, c'était que j'avais pas reçu ma récompense de tout le travail que j'avais initié et effectué pendant l'année et bien au-delà. Et puis en fait, je me pose pas de questions. Je me laisse vivre entre guillemets parce que c'était pas joli à voir non plus. Donc je me pose pas de questions. Juste j'essaye de passer outre, même si c'est pas simple. Et puis Philippe m'avait dit tu reviens quand tu veux ou si tu veux pas revenir. Enfin, tu fais comme tu veux.
Ouais.
Donc là-dessus aussi, il a été super. Il a été super quoi, parce que c'était pas simple ni pour lui non plus. Je sais même pas ce que je fais, juste je pars en vacances avec une amie, je me vide la tête. Voilà, ouais. je fais autre chose, je me vide la tête. Mais je pense pas du tout natation. Je vais pas à la piscine. Je vais pas nager. Je
finis les carreaux.
Je fais autre chose.
Ouais.
Et puis début octobre, je retourne à Narbonne. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Et puis je viens faire un coucou à Philippe parce que eux ont repris depuis septembre. Et donc je viens faire un coucou à Philippe et puis il me dit ça va et tout. Donc bref, on discute. Et puis comme ça, je lui dis bon ben je reviens le 15 octobre. et en fait c'était parti. Tout allait bien et en fait l'envie de renager ça me titillait. J'avais encore envie. Je pouvais pas rester sur ça quoi. Donc je me suis dit je vais reprendre à nager et je vais voir ce que ça donne. Et en fait Philippe me dit ok pas de problème, tu reviens mais tu vas nager une fois par jour.
Ok.
Bon. Donc je reviens, je nage une fois par jour, donc je nage le matin et puis j'ai toute l'après-midi, toute la journée pour moi. Et je fais ça jusqu'à Noël. Donc je fais ça pendant 2-3 mois. Et en fait, je m'éclate. Hein. Je m'éclate. Je fais des super entraînements. J'adore ce que je fais. Je sais que je suis épanouie et que la natation c'est pas terminé quoi.
Ouais.
Juste, j'ai pas d'objectif. Je sais pas quel objectif mettre et j'ai pas de challenge et c'est ça qui me dérange en fait. Je me dis mais je veux pas juste nager pour nager. Donc, et puis à cette époque-là, je me dis je suis déjà championne du monde. Donc c'est peut-être un peu prétentieux à dire mais j'ai été championne du monde en 2015. En 2016, je suis vice-championne olympique mais je me fais disqualifier. Et en fait, le titre de championne du monde en 2017, ça me fait pas rêver. Mmh. Ça me fait pas rêver. Je me dis, c'est bon, je l'ai déjà, donc ça me fait pas rêver.
Ouais.
Il me faut un autre truc, il me faut autre chose. Et en fait, durant mes années avant d'eau libre, on m'avait souvent parlé des courses un peu spéciales, comme la Santa Fe de 57 kilomètres. Et Stéphane, donc le directeur technique, lui, il l'avait fait 8 fois.
Ah ouais, ok.
Et il l'avait gagné 4 fois.
Ouais.
Et il m'avait souvent parlé de ces anecdotes, de cette course qui était incroyable, que l'Argentine c'était un pays de d'eau libre, etc., etc. Et je me dis mais non, au début je voulais mettre au triathlon. Je voulais changer, je voulais faire autre chose, je voulais avoir un autre challenge, mais vraiment un gros truc quoi. Et puis je me suis rendu compte que je savais pas trop courir, que le vélo je me dis non,
t'as tout le temps pour venir au triathlon.
Ouais, je peux pas. Ça c'est pas fait et je réfléchis à ces courses et je me dis mais quand même 57 kilomètres, je vais jamais pouvoir y arriver quoi. Et puis au fur et à mesure des jours et je me rappelle Noël passe et je me dis non en fait c'est ça qu'il me faut quoi. Ouais. Je vais tenter de la finir. Et donc janvier, je reprends mes entraînements 2 fois par jour. Et la course, c'est le 5 février. Okay. Donc c'est
ça arrive super vite.
Ça arrive super vite et je suis pas forcément entraînée parce que du mois d'octobre au mois de décembre, j'ai nagé une fois par jour. Bon, je nageais 8 kilomètres, mais je nageais pas comme avant. Janvier, je reprends à peu près normalement, mais c'est que un mois. Et le 5 février, je pars pour la course. Donc,
c'était quoi le plus long que t'avais nagé? Peut-être 25 ou...
Oui, 25.
D'un coup,
ouais. Ouais, 25. Ouais, 25. J'avais fait le 25 km en 2015.
Ok.
Ouais. Donc, ouais, 25 km. Donc, ça, c'était presque le double, plus que le double, quoi.
Ouais.
Et déjà, 25 km, je trouvais ça long. Et puis, arrive cette course. Et puis, arrive cette course, cette histoire incroyable, cette expérience incroyable. Et en fait, c'est là où moi, j'ai mis le point d'orgue. Pour moi, c'était les jeux. Là, c'était fini pour moi, quoi.
OK.
L'histoire des jeux, et j'avais fait mon deuil, en fait, là, quoi. C'était ma récompense, le fait que j'arrive à relever ce challenge et aussi une récompense, ouais, une récompense du travail que j'avais fourni et que je méritais, entre guillemets.
Voilà. OK. Ouais. Et tu fais combien à cette course?
Je fais 3e.
3e. Okay, pas mal. Ah, le truc de complètement fou, quoi. 57 km. Mais ouais, c'est une course mythique en olive, ouais. Quoi. C'est le, c'est, il n'y a pas de course plus longue, il me semble.
Avant, il y avait une course plus longue qui était de 88.
Ok.
Mais elle a été supprimée et oui, c'est celle-là, la plus longue.
Trois participants à chaque fois.
La plus longue, ouais, c'est celle-là. C'est 57 km.
Ok. Et tu te souviens un peu de qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te plaît là-bas? C'est quoi? C'est l'ambiance? C'est...
Oui, c'est l'ambiance. Il y a
le décor.
En fait,
aussi,
là-bas, c'est jour férié.
Ouais.
Le jour de la course, c'est jour férié, donc t'as tous les gens qui sont au bord du fleuve et qui sont là avec leur barbecue, qui s'encouragent, qui attendent, parce que la course, évidemment, ça dure, enfin, ils voient juste passer, quoi, parce que c'est le long d'un fleuve, d'un point A à un point B, et ils attendent que les athlètes passent, et voilà, ouais, c'est le feu, et quand ça passe, ben, t'entends des cris, t'entends les encouragements, et ouais, c'est super.
Ok. Ok. Bon, je sais pas s'il y a des petites vidéos qui traînent sur YouTube. Faudra que j'aille regarder un petit peu plus en détail.
Il y a un reportage qui a été fait dessus. Avec Intérieur Sport.
Ouais.
Je sais pas si tu connais. Et en fait, Intérieur Sport, c'est des reportages, en fait, d'athlètes un peu, sur des disciplines un peu méconnues.
Bien sûr, ouais.
Et du coup voilà, ils m'ont suivi pendant toute la course. Donc ça aussi, c'était en fait, heureusement qu'ils étaient là, et ça m'a aussi permis d'en parler, en fait, de ce qui s'était passé au jeu, et de faire un peu le psy, quoi, de pouvoir en parler, de pouvoir mettre des mots et de pouvoir passer au-dessus. Ça m'a beaucoup aidé qui d'ailleurs, je remercie encore Vincent Alix, qui ça me rappelle des bons souvenirs, parce qu'on avait des interviews qui duraient 45 minutes, et on finissait tous les deux avec la larme à l'œil, et ouais, c'était pour moi aussi vraiment une guérison, quoi.
Ok, ok. Bah écoute, je suis désolé, je suis complètement passé à côté de ce reportage. Non, mais attends,
il faut vraiment que tu le vois.
Il y a pas mal de contenu sur toi.
Ouais, ça explique beaucoup de choses, et ça montre une autre facette de la discipline, parce qu'on n'a pas forcément, quand on voit la télé, la discipline, c'est la discipline des championnats d'Europe, des championnats du monde. Là, c'est vraiment une course un peu à part. Avec ce qui s'est passé, et voilà, je vous invite à aller le voir.
Ouais, et si toi tu veux te mettre au triathlon, il y en a un très beau sur le Northman.
Ouais, j'ai déjà vu.
Ouais. Et moi, tous les ans, je m'inscris à la loterie, hein. Peut-être que mon heure va venir, mais pas cette année, parce que là, je crois que c'était en début janvier, et j'ai pas été pris, mais je retente.
Là, c'est costaud, hein.
Je participe secrètement, ma compagne n'est pas au courant, mais si elle écoute, je vais me faire engueuler, mais je m'inscris et j'espère secrètement pouvoir le faire bientôt, quoi. Trop cool. Et comment est-ce que tu évacues la pression? Qu'est-ce que tu fais en dehors de quand tu vas pas nager, quand tu as besoin de te changer les idées?
Moi, j'aime être dehors.
Ouais.
Ça revient un peu à mon enfance. Moi, j'ai tout l'été, j'ai passé mes journées dehors avec mes copains, et ouais, j'aime bien me balader, j'aime bien faire être dehors. Ouais, être dehors et se reconnecter un peu à soi, se reconnecter un peu à la nature. Pas forcément juste vraiment pour le plaisir, quoi.
Ouais. Ouais. OK. Le plaisir avant tout, alors.
Ouais.
Et pas forcément de musique, de films, de podcasts, de livres.
Non, je suis pas très grande lectrice, parce que j'adore les livres. J'ai plein de livres, sauf que je lis 10 pages et après j'arrête. En fait, j'arrive jamais à terminer les livres.
Je les ai tous lus, mais juste le début.
C'est vrai, j'ai plein de livres sur ma table de chevet, et en fait, ils sont là, mais j'ai du mal à m'y mettre vraiment. Après, j'aime bien les séries, voilà, je regarde des séries sur Netflix, etc. Mais voilà, ouais.
Ok. Et je relis rapidement mes petites notes. Tu t'es après ce qui s'est arrivé cet été, tu t'es lancé un nouveau défi. Mmh. Tu te lances là sur 1500. Est-ce que c'est un petit peu dur de repartir un petit peu débutante, tu vois? Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans le sport.
La question est très pertinente.
Je l'ai fait plusieurs fois dans le sport, et à chaque fois, c'est un truc, tu sais, quand t'arrives au haut niveau dans un sport et que tu redémarres au tout début. Alors bon, toi, tu repars pas de zéro, c'est sûr. Mais il y a quand même, mais il y a quand même un truc qui fait mal. Comment est-ce que toi tu l'as fait? Est-ce que toi ça a pas été trop comment est-ce que t'as réussi quoi psychologiquement? Parce que moi je sais qu'à chaque fois ça me bousille.
Ben après les championnats du monde, donc quand j'arrive 11e et que je suis pas qualifiée au jeu, déjà la question qui se pose, c'est est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Ouais. Parce que ben voilà, ça fait quand même 2-3 fois que je me prends des claques, que je me dis ben ça se trouve voilà, les jeux c'est pas pour moi et puis il faut que j'arrête quoi. Donc tout cet été, ouais, c'était surtout cette question qui me taraudait dans la tête. Et puis comme je l'ai dit il y a pas longtemps à une autre télé, en fait la question que je me suis posée, c'est est-ce que je me vois en septembre recommencer comme je faisais tous les ans, ou est-ce que je me vois arrêter et faire autre chose. Et la réponse était non, évidemment je me vois pas faire autre chose. Enfin c'est comme si pour moi je j'avais pas terminé quelque chose et surtout j'avais pas envie d'avoir de regrets. Et j'avais encore cette envie de nager quoi, donc voilà, la réponse était là. Et après c'était où, avec qui, comment et pourquoi. Et là aussi ça a été une étape une étape de ma carrière, c'est de quitter Philippe, de quitter mon groupe d'entraînement. Évidemment Philippe a très bien compris et ça c'est plutôt cool parce que
c'est chouette de sa part, ouais.
Voilà, c'est important. C'était important pour moi de quitter Philippe sereinement et bien, parce que c'était quelqu'un d'important dans ma vie, dans ma carrière. Et donc il a très bien compris. On était tristes tous les deux, mais moi je pouvais pas m'entraîner avec des gens qui étaient qualifiés au jeu et surtout que Philippe allait axer évidemment la préparation là-dessus. Donc on s'est quittés tous les deux et puis moi je me suis dit, évidemment j'ai cherché un nouveau challenge, un nouveau objectif et je me suis dit pourquoi pas tenter sur 1500. Je reviens un peu à mes débuts et puis c'est vrai que après mon titre de championne du monde junior, j'avais un peu laissé de côté le bassin et je m'étais pas vraiment spécifiquement préparée et entraînée pour le 1500. Et comme de par hasard, le 1500 est devenu une discipline olympique pour les femmes. Donc je me renseigne, je regarde le temps et je me dis c'est faisable, le temps c'est 16-21 et moi mon meilleur c'est 16-24. Donc pourquoi pas.
Ouais.
Donc j'ai mon objectif. Mais c'est très lointain, enfin j'y pense mais pas vraiment, je veux juste retrouver un groupe d'entraînement, un entraîneur et m'y remettre. Et puis je lance une bouteille à la mer, je regarde un peu ce qui se passe au niveau français parce que je veux pas quitter la France. Et puis j'appelle Fabrice Pellerin. Voilà, j'appelle Fabrice Pellerin et en fait tout se fait très rapidement. J'arrive à Nice avec un groupe qui est dans la même dynamique que moi, qui veut se qualifier aux Jeux Olympiques. Ça aussi, comme je le disais, c'est important pour moi d'avoir un groupe dans la même dynamique. Et puis, le premier mois, c'est bien parce que tu apprends, c'est une nouvelle méthode, c'est un nouvel entraîneur, un nouveau groupe, tout se passe super bien. Et puis, la première compétition arrive et puis, là, tu te prends la première claque. Puis tu te dis waouh. En fait là je suis tout en bas donc ouais c'est compliqué parce que j'ai été dans une discipline vraiment au top niveau. Au-delà de ma non qualification aux Jeux Olympiques, je finis quand même vice championne du monde sur 5 km.
Bien sûr, ouais. C'est ça qui est le lendemain en plus ou deux jours après
ouais. Okay. Donc voilà, là je me rends compte que je vais tout réapprendre. Mmh. Et là c'est plein de questions. C'est est-ce que je suis capable, j'ai des doutes et c'est pour ça aussi que je reviens un peu à la méditation entre guillemets, c'est que ouais, cette année, j'ai eu beaucoup de mal à me dire je suis capable, enfin voilà, beaucoup de questions qui se posent et des doutes, surtout des doutes. Et un manque de confiance en soi, tout simplement, de se dire au fil des entraînements, je me dis mais c'est pas possible, ça va pas fonctionner quoi, ça va pas fonctionner en fait, dans quoi je me suis lancée et ça va être dur, ça va être super dur. Et effectivement, ça l'est. Jusqu'à Noël, ça a été vraiment pas facile. J'allais dans les compétitions, championnat de France, les petits meetings, et je faisais des temps mais nul, enfin pas du tout au niveau que j'espérais et que j'espère. Donc évidemment ça pose des questions, et mais bon voilà, aujourd'hui je suis encore là, je veux pas abandonner et je m'y suis lancée. Donc moi quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à 100%. On verra le résultat lors des championnats de France ou là qui sont qualificatifs pour les Jeux. Depuis janvier, ça va un peu mieux. J'ai un peu des réponses rassurantes à l'entraînement et pas encore en compétition, mais surtout à l'entraînement. Donc ça me donne confiance évidemment, mais après non, c'est pas facile de retourner bah en bas quoi, sachant que quand t'étais vraiment haut, t'étais vraiment tout en haut et que tu redescends un peu, non, c'est une chose que j'ai découvert et que j'apprends au fur et à mesure des jours, ouais.
Ouais, qu'est-ce que tu dois apprendre, c'est surtout de la technique, j'imagine, tout ce qui est le but aussi, parce que c'est en indoor.
Bah voilà, c'est toutes les parties qu'on avait un peu négligées en eau libre et qu'on fait pas forcément. Donc c'est vraiment la technique de nage, c'est les virages, vraiment redevenir une nageuse de bassin quoi. Donc un peu les départs et mais vraiment l'efficacité du mouvement, parce que évidemment quand on nage un 10 km, on est à l'économie.
Ouais.
On peut pas être à 100% pendant 2 heures.
Ouais, donc, c'est pas le geste parfait quoi.
Voilà, c'est pas un geste parfait, c'est plus de l'endurance, etc. Le 1500 aussi c'est de l'endurance, mais c'est une endurance plus technique et plus précise. C'est
quelques minutes versus
et avec Fabrice j'apprends ça, je réapprends ça, c'est vraiment la qualité du mouvement, l'efficacité du mouvement et surtout en eau libre, j'avais une grosse vitesse, on va dire. J'avais une voire deux grosses vitesses. Et en fait, en natation, il faut que tu sois assez polyvalent. Il faut que tu aies plusieurs palettes de vitesses. Et ça, j'avais un peu perdu. Donc voilà, c'est ce que j'apprends aujourd'hui, avoir plusieurs palettes de vitesses, quoi.
Okay. Et tu rejoins des athlètes qui eux ont plus l'expérience de la longueur. Est-ce que eux ils t'ont accueilli à bras ouverts? Comment est-ce que ça t'aide un peu ça au quotidien d'avoir ces gens-là? Ils te filent beaucoup de conseils?
Non, super cool. Après je les connaissais un peu évidemment. On se côtoyait de temps en temps lors des championnats de France, etc. Et on se suivait. Et c'était super cool. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et puis on s'entraide. Charlotte Bonnet, je l'aide sur les longues distances. Je m'inspire un peu d'elle sur le sprint, sur les départs, sur les virages, sur les coulées, sur des choses que voilà j'ai beaucoup de mal à faire. Et il me donne des conseils, il me motive, il me booste même. Donc c'est on a un chouette groupe la natation c'est un sport individuel, mais je sais que le collectif c'est hyper important. En tout cas pour moi, je pense que j'ai besoin d'évoluer collectivement pour être bien individuellement quoi.
Ok, voilà. Mais c'est la question que je voulais te poser, parce qu'on présente, la natation est un sport individuel, mais on se présente souvent comme l'équipe de France de natation. Il y a beaucoup de relais et tout. Comment est-ce que les coachs ils construisent cette alchimie? Comment est-ce qu'ils construisent ça? Est-ce que parce que toi, tu es encore plus dans une discipline individuelle, tu participes pas à des relais, quoi. Comment, est-ce que tu arrives à te rendre compte un petit peu comment est-ce qu'ils arrivent à le créer et comment?
Bah après, tout ça, c'est du management, hein.
Ouais.
Philippe sait très très bien le faire, il a une équipe, et puis Fabrice aussi, Évidemment, la natation, si tu t'entraînes tout seul, c'est très compliqué, c'est quand même une discipline qui est assez monotone. Donc pour que ça soit un peu ludique et pour qu'il y ait de l'émulation, en fait, tout simplement. C'est du management, c'est différentes personnalités dans un groupe, chacun apporte sa pierre à l'édifice et comme l'a fait Fabrice en 2012 quand il revient avec son groupe et qu'il ramène 9 médailles des Jeux Olympiques, c'est incroyable. Et puis Philippe, il le fait aussi avec son groupe, il a beaucoup d'étrangers et voilà, mais après comment ils font ça, il faut leur poser la question.
Ouais, t'as raison.
Non, c'est différentes personnalités et différentes spécialités en fait. Que ce soit du sprint, du long, du très long, je pense que chacun peut apporter quelque chose à l'autre, et c'est ça qui fait qu'un groupe, qu'un vrai groupe fonctionne.
Ok, ok. Et j'ai vu aussi que tu avais repris des études de nutrition.
Ouais.
Nutritionniste, pardon. C'est cette année ? Ouais.
Non, c'était l'année 2018.
Ouais, c'était en 2018.
2018, ouais. Et en fait, donc 2016, il y a les Jeux de Rio. 2017, bah il y a cette course, cette fameuse course, et après, bah je suis à nouveau championne du monde. Ouais. Et en fait, je me dis, bah si je veux être bien à Tokyo, il faut que je prenne au moins un an un peu en un décalage, enfin ouais. Un peu relax. Et donc je me dis bah je vais nager une fois par jour, et ce qui m'intéressait c'était vraiment la nutrition. Donc je me lance dans un BTS diététique, et mais évidemment sans aménagement, sans rien. Donc c'était je pensais que ça allait être cool, mais en fait non, c'était pas plus cool. C'était autre chose.
Pas la lecture, en
ouais
plus.
Non, mais c'était autre chose, mais c'était pas plus cool quoi. Donc non, super enrichissant, j'ai vu du monde, je me suis ouverte un peu à autre chose. Et après bah ça a été compliqué aussi pour moi, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée retourner à l'école. Mmh. Et retourner à l'école, réapprendre une routine d'apprentissage, etc. Donc ça, c'était pas simple. Et puis le BTS diététique n'est pas simple du tout. je me suis aventurée là-dedans, et je me suis dit wow, je m'attendais pas du tout à ça. Mais non, donc du coup j'ai fait qu'un an. Mais c'était super enrichissant, et ça m'a donné un peu des outils pour améliorer ma nutrition, etc. Même si je faisais déjà beaucoup avant, voilà, ça m'a permis de voir un peu autre chose. Ouais, c'était surtout ça. Ouais.
Ok. Et du coup, c'est quoi tes grandes lignes en nutrition ? Est-ce que t'as un régime particulier ?
Non. Moi, je suis. Enfin. Après, c'est vrai que moi, je fais pas un sport à poids où il faut faire vraiment attention à son poids, etc.
Ouais, mais t'es un sport d'endurance, donc.
Bien sûr, mais moi, je suis pas pour les régimes et.
Ouais, bien sûr. Mais quand je dis régime, la nourriture, c'est pas forcément restriction, tu vois, mais plutôt dans le sens, tu vois, je sais pas, il y a des gens qui vont arrêter les protéines animales pendant un moment parce qu'ils vont considérer que voilà.
Ou... Non, après, moi, je mange ce que j'ai envie de manger.
Ouais.
La quantité que j'ai envie de manger. Après, évidemment, je fais attention à ne pas manger des produits transformés. Enfin voilà, j'aime bien le brut. La viande, c'est vrai que j'en mange un peu moins depuis quelques temps. Mais je mange du poisson, enfin voilà, je fais attention à mon alimentation. Si j'ai envie de manger une raclette ou enfin voilà, je vais pas me priver quoi.
Ouais.
Mais
font des raclettes, Anaïs?
Ouais, font des raclettes. Ouais, font des raclettes. Mais non, l'alimentation c'est super important, c'est ce qui pour nous vraiment, c'est enfin pour tout le monde, c'est notre carburant. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on ingère. Et encore plus aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde de l'agriculture, de l'agroagriculture, etc. Il faut vraiment faire attention. J'essaye de manger bio, j'essaye de bien manger, ouais, simplement ouais. De bien manger.
Il y a quelques consignes avant, quelques jours avant une course.
Une course d'eau libre, oui. Ouais. Surtout quand tu fais du 10 et du 25 km.
Est-ce que tu fais sur marathon ou en course à pied, par exemple, tu vas faire une restriction calorique
justement,
la semaine avant et les 3 jours avant, tu...
Non, faire juste attention à manger beaucoup de féculents, en fait, je vais trouver le nom, je sais plus.
Pour le glycogène, faire les recharges.
Voilà, pour la recharge, pour pas être en manque. Et vraiment, même si t'as plus faim, essayer de, surtout pour 25 km en fait, c'est super important. Après pour 10 et 5 aussi, mais pour le 25 km, ouais, c'est important.
Plus de fringales sur 25.
Non, plus de fringales, ça y est. Non, ça y est, c'est corrigé.
Ouais. C'est des gels que vous prenez au ravito.
Ouais, sur 5 et 10, ouais, c'est des petits gels. Enfin, sur 5, on se ravitaille pas forcément, mais moi j'ai toujours mes petits gels sur moi, okay. Au cas où. Sur 10
sur des épuisettes là, ouais.
Sur 10, en fait, c'est juste des boissons énergétiques en fait qu'on prend.
OK.
Et après, on peut insérer des gels, etc. Et puis après, sur 25, c'est encore différent parce que là, on a le temps, ça, c'est pas du tout la même intensité au début, etc. Donc, on peut prendre une banane, une barre de fruits, voilà. Mais, ouais, c'est le 25 km, c'est le ravitaillement, c'est vraiment super. Enfin, c'est une des clés du 25 km.
Ok, ouais. Trop cool. J'arrive un petit peu à la fin. J'ai des questions un petit peu classiques que j'aime bien demander. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi.
Une bonne journée pour moi.
T'inquiète, y a pas de piège.
C'est simplement dans mon lit le soir, en ayant fait des bons entraînements, bien réalisés et satisfaite de ce que j'ai fait, quoi.
Ok. Voilà. Okay.
Et aussi un bon petit déj. Un bon petit déj. Une bonne journée, ouais, j'adore les petits déj. J'adore les brunchs, j'adore les petits déj. Ouais, une bonne journée, ça commence par un bon petit déj.
Le coup de passer, si vous voulez lui faire plaisir, invitez-la à bruncher.
Voilà, c'est ça, j'adore les brunchs.
Les œufs, le bacon, et
c'est ça.
Les toasts à l'avocat.
C'est ça.
C'est quoi ton meilleur souvenir?
De sport ou...
Bon, allez, tout compris. Il n'y a pas que le sport dans la vie.
C'est vrai. Moi, c'est un souvenir qui me marque, c'est lors des Jeux Olympiques de Pékin, donc mes premiers Jeux Olympiques. Donc, j'avais pas passé une super semaine. Et en fait, le dernier jour des Jeux, il y a la finale de hand avec les Français. Et en fait, comme tous les athlètes avaient fini leur course, on s'est tous retrouvés là-bas. Et c'était une ambiance de dingue, en fait. Je me suis dit, waouh! Moi, je veux vivre ça, quoi. Enfin, je veux revivre ça. C'était incroyable. Et en plus, les Français gagnent, sont champions olympiques. Donc, il y avait tous les athlètes français. Je me rappelle, il y avait Jean-Luc Reichmann aussi, il était là. Et j'étais aussi fan de lui parce que je regardais toujours attention à la marche. Enfin, bon, bref. Et ouais, c'était un super souvenir pour moi. Vraiment le souvenir qui m'a donné envie de revivre ce moment-là et de me dire que j'ai une chance incroyable, quoi.
Ok, ouais. Est-ce que c'est quoi la rencontre qui a le plus changé ta vie?
Il y en a plusieurs, je pourrais pas.
Allez, on en cite plein alors.
La rencontre avec Philippe, la rencontre avec Stéphane Leca, la rencontre avec. Louis-Frédéric Doyer, enfin c'est des gens qui ont compté pour moi humainement et qui m'ont apporté un soutien lors de ma carrière, donc c'est des gens importants.
Ok. D'ailleurs, je remercie Louis-Frédéric qui nous a mis en relation. Super professionnel et en tout cas et super sympa d'ailleurs. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Dans 10 ans? Bon, j'aurais arrêté de nager là.
Question psy, hein, attention.
Quand même, j'aurais arrêté de nager dans 10 ans.
Peut-être un petit triathlon, allez. Là, on est à Nice et tout. Ça ouais, des
je
idées
sais
et
pas.
Tout.
Je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais arrêté la natation. Ça, c'est. Je pense que c'est sûr. Je pense que je sais pas dans quoi, mais j'aimerais. Donner en fait ce qu'on m'a donné et voilà, être dans le partage, le sport, le bien-être, voilà, dans ces eaux-là. Après, dans quoi précisément, je sais pas, mais
tu dois bien accompagner des athlètes de haut niveau aussi.
Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, mais plus dans la discussion, dans le conseil et ouais, pourquoi pas, ouais.
Ok.
Ouais.
Ça tu m'as déjà dit. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'ait donné qui t'a marqué un petit peu plus que les autres cette année, par exemple?
Un conseil, lâche prise.
Ok.
Lâche prise, souffle quoi. Tranquille.
Ouais. C'est ce que tu te dirais si tu avais l'occasion de retourner, je sais pas, avant ta première course junior, avant ton premier titre sur la ligne de départ, c'est ce que tu te dirais, lâche prise?
Non, pas forcément, parce que là j'arrivais beaucoup plus à lâcher prise. Non, je me dirais aie confiance en toi. Aie confiance en toi et crois en toi surtout. Crois en toi et confiance, ouais.
Okay.
Les deux mots là, ouais.
Trop cool. Mais il y a un truc que je trouve hyper dur. Bon, c'est ma petite aparté personnelle, mais tu vois, moi mon sport c'était, tu sais, enfin en tout cas ces 5-6 dernières années, c'était l'entrepreneuriat. Mmh. Et j'écoute beaucoup d'histoires d'entrepreneurs et de grands chefs d'entreprise et tout. Et tu vois, ils se font la compète entre eux, mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de premier. Tu vois, tu peux avoir une super boîte avec 200 employés, tu peux en avoir une avec 15 000, et puis au final, ça fait le même résultat. Et tu vois, un jour, il y a un mec qui m'a dit, ouais, ce qui compte, c'est pas le résultat, tu vois, c'est vraiment de l'aventure et de kiffer sur le chemin. Toi, qu'est-ce qui te fait kiffer au jour le jour? Qu'est-ce qui t'anime?
Moi, c'est vraiment le challenge, de voir en fait de quoi je suis capable.
Ouais.
C'est de dépasser mes limites et de voir jusqu'où je peux aller et ouais, c'est ça aujourd'hui qui m'anime. Après évidemment, enfin on en revient pour moi vraiment la consécration ça serait une médaille olympique, mais la vie m'a montré que ça sera pas un chemin facile. Ouais. et que si ça s'est passé comme ça et si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, c'est tout. Enfin moi je crois pas du tout au hasard. Donc c'est ça, c'est voir comment est-ce que je peux au travers des situations particulières qui se sont croisées sur mon chemin et qui vont se croiser. Comment est-ce que moi je peux trouver les solutions? Je peux trouver les solutions pour y arriver, quoi, pour ouais. arriver à réaliser mon rêve.
Ok, voilà. Génial. J'adore comme réponse. Qu'est-ce qu'on trouve sur ta playlist pour boucler un petit peu tout ça?
Alors beaucoup d'Elvis Presley. Non,
c'est vrai. Génial.
Non mais j'écoute de tout. Vraiment, j'écoute de tout. Mais j'aime bien les. Ouais, j'aime bien Elvis Presley, j'aime bien Michael Jackson, j'aime bien les années 90. J'aime bien être dans ma voiture et chanter, quoi.
Ok. Donc, voilà. Sous la douche aussi, peut-être.
Comment?
Sous la douche aussi.
Non, pas trop sous la douche, mais surtout dans ma voiture.
Ok, bon, on demandera des scoops aux coéquipiers pour savoir si c'est que dans la voiture. Et pas un peu dans le bassin aussi. Trop cool. Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs qui veulent te suivre et qui veulent en savoir plus sur toi?
Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et voilà. Là, voilà, je communique pas mal, donc, voilà, okay. Si vous voulez me suivre.
Voilà. Je vous encourage à le faire. Ça fait toujours hyper plaisir. En tout cas, je sais que vous êtes beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'auditeurs qui derrière envoient des messages d'encouragement, qui viennent suivre, qui viennent dire voilà, j'ai été découvert dans le podcast. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours chaud au cœur. En tout cas, de ce qu'on me dit. Donc vraiment, faites-le. La dernière petite question pour clôturer un petit peu cette interview, c'est un peu la tradition, c'est un passage de flambeau. C'est de savoir est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que tu me recommandes d'aller interviewer. Il peut y en avoir plusieurs.
Moi, il y en a un qui me fait rêver, c'est Roger Federer.
D'accord.
Je sais pas si t'arriveras à l'interviewer.
J'y arriverai.
Mais ouais, lui, vraiment, c'est même au-delà en fait du sport, il m'inspire vraiment. Enfin, c'est vraiment la classe, quoi. Donc ce que je disais, même en dehors du sport, sa longévité, sa façon de comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être au plus haut et puis d'avoir des moments un peu plus durs et de rebondir et de durer, quoi. Ouais. Et de durer et ouais, Roger, c'est la classe, ouais.
Ouais, j'y arriverai, c'est sûr. Non, c'est sûr. Tu l'as déjà rencontré?
Non, jamais. Jamais. Bon, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu jouer et ouais, j'aimerais bien le voir jouer parce qu'en fait, Roland Garros, ça se passe toujours au mois de juin et au mois de juin, moi, je suis toujours en plein stage prépa. Donc je peux jamais aller voir, mais ouais.
Ok, ouais, alors, et Londres ou Wimbledon, tu dois être en compète à ce moment-là, généralement.
Ouais, pareil.
Ok. Bon, si jamais j'ai des places pour Roland, je te les enverrai quand
même. Ouais, cool.
Bon, écoute, merci beaucoup Aurélie, c'était vraiment un plaisir.
Merci à toi.
Et écoute, je touche du bois pour toi et je t'encourage à fond à vivre tes rêves en tout cas.
Merci beaucoup.
Salut, à bientôt.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.